Rubrique divers. Il y a 20 ans, l'apartheid était aboli tout en privant la classe ouvrière sud-africaine de sa victoire. Le 22 décembre 1993 marqua le démantèlement formel de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce système qui avait permis à la minuscule bourgeoisie blanche d'imposer depuis 1949 une exploitation féroce à la classe ouvrière, essentiellement noire, du pays. Ce jour-là fut adoptée une constitution transitoire, créant le premier gouvernement multiracial du pays. Devaient y siéger côte à côte des militants de la lutte contre l'apartheid et leurs anciens tortionnaires, Nelson Mandela, le leader de l'ANC nationaliste, Congrès national africain, et le président F.W. de Klerk, leader du Parti national qui avait jadis mis en place l'apartheid. Leur tâche était de préparer les premières élections multiraciales qui eurent finalement lieu le 27 avril 1994. En 1993, l'essentiel des lois racistes qui constituaient l'apartheid avait déjà été abrogé. Sur le papier, la discrimination raciale avait disparu, même si, dans les têtes et les comportements sociaux, c'était loin d'être le cas. Mais en reconnaissant les droits politiques de la majorité noire de la population, cette constitution n'en enfonçait pas moins le dernier clou dans le cercueil de l'apartheid. Sous les coups de la classe ouvrière. Bien que portée au crédit des efforts conjoints de Nelson Mandela et de F.W. de Klerk, qui devaient recevoir conjointement le prix Nobel de la paix 1993 pour cette raison, l'abolition de l'apartheid devait pourtant tout à la mobilisation populaire et avant tout ouvrière au terme d'un processus qui avait duré plus d'une décennie. Ce processus avait commencé suite à la mobilisation ouvrière qui, à la fin des années 1970, avait succédé à l'explosion de Soweto. En 1979, inquiets pour leurs profits, les grands trusts avaient été à l'origine de la commission Wayam, chargée officiellement de résoudre le manque de main-d'œuvre qualifiée, mais en fait de tenter de restaurer la paix sociale. Celle-ci s'était prononcée pour la fin de la discrimination à l'embauche dans l'industrie et la légalisation des syndicats noirs, mesures qui furent adoptées en 1981. Mais peine perdue. Après avoir marqué le pas, du fait de la répression, la mobilisation ouvrière trouva un second souffle en s'engouffrant dans la brèche ainsi ouverte. Ce fut une véritable explosion durant une décennie que l'état d'urgence permanent imposé par le régime ne réussit pas à freiner. Dans la région de Johannesburg, par exemple, les syndicats trouvèrent une parade efficace à l'interdiction des réunions en organisant ce qu'ils appelaient des « Emza Balasveni », lieu de lutte. Chaque semaine, un wagon, un jour et une heure étaient choisis sur chaque ligne de banlieue pour y tenir la réunion syndicale de la semaine. Les effectifs des nouveaux syndicats noirs explosèrent. De moins de 80 000 membres en 1979, ils passèrent à 300 000 en 1983 pour dépasser le million en 1989. Non seulement les tentatives pour endiguer cette vague échouèrent, mais elles se retournèrent souvent contre leurs instigateurs. C'est ainsi qu'en 1984, l'occupation militaire des townships, ordonnée suite à une grève particulièrement militante dans les mines d'un des plus grands trusts miniers au monde d'anglo-américaine, ne réussit qu'à entraîner un soulèvement général des ghettos. De local, les grèves gagnèrent en ampleur. 1987 vit ainsi le premier appel à une grève nationale dans les mines, et le seul à ce jour, au cours de laquelle 340 000 grévistes s'affrontèrent aux forces de répression. On a calculé qu'entre 1986 et 1990, il y eut plus de journées de grève dans le pays qu'au cours des 75 années précédentes. Telle était l'ampleur de la mobilisation ouvrière. Et la pression des grands trusts. Dès le début des années 1980, des contacts avaient été pris par les autorités pour tenter de mettre fin à l'agitation sociale. Les pressions des grands trusts y étaient pour quelque chose, mais aussi celles des puissances impérialistes qui s'inquiétaient de la menace d'embrasement que la mobilisation ouvrière sud-africaine faisait peser sur le continent africain. Initialement, ces contacts avaient suivi trois stratégies. Tandis que les grands trusts cherchaient à se concilier les nouveaux syndicats noirs en leur offrant les moyens matériels dont ils manquaient, le gouvernement jouait sur les deux tableaux. D'un côté, il encourageait la formation d'une petite bourgeoisie noire dans les homelands, les zones rurales où les noirs étaient assignés à résidence entre deux contrats de travail, et leur promettait l'indépendance politique. De l'autre, dès le début des années 1980, il prenait contact secrètement avec la direction de l'ANC, en particulier au travers de Mandela, qui, transféré de Robben Island à la prison de Polsmoor, près du Cap, eut des rencontres régulières avec le ministre de la Justice d'alors. En 1985, une étape fut franchie lorsque, en plein état d'urgence, l'anglo-américaine infligea un camouflet à Pretoria en rencontrant la direction en exil de l'ANC devant la presse internationale en Zambie. L'année suivante, anglo-américaine allait plus loin en protestant officiellement contre l'arrestation de leaders syndicaux. Mais si les grands trusts poussaient ainsi vers un règlement politique, ni eux ni la bourgeoisie sud-africaine n'avaient encore fait, à ce stade, le choix d'en finir totalement avec l'apartheid, ni de confier leur sort à l'ANC. Encore leur fallait-il vérifier que l'ANC garantirait l'avenir des politiciens blancs et les profits des grands trusts, en privant les masses mobilisées de tout moyen d'intervenir dans la transition politique. Le but des quelques 7 ans de négociations qui suivirent fut donc de tester la volonté de l'ANC de protéger l'ordre social établi. Finalement, en 1989, les choses s'accélérèrent. Le président d'alors, P.W. Botha, rencontra officiellement Mandela. Quelques mois plus tard, il fut remplacé par F.W. de Klerk, un ancien conservateur, entre guillemets, dur, du Parti national, devenu du jour au lendemain porte-parole de son aile, entre guillemets, libérale. Le 2 février 1990, de Klerk annonça la légalisation de l'ANC et du Parti communiste et l'ouverture de négociations pour en finir avec l'apartheid. Puis Mandela fut libéré avec la totalité des dirigeants historiques du mouvement anti-apartheid et les négociations commencèrent officiellement dans le cadre du CODESA, la Convention pour une Afrique du Sud démocratique, sur la base de, entre guillemets, l'Union nationale, aboutissant finalement à la Constitution transitoire de 1993. Quel avenir pour le prolétariat ? Dans ce long processus, les masses noires, sans la mobilisation desquelles rien ne se serait passé, ne furent qu'une masse de manœuvre pour les nationalistes de l'ANC comme pour leurs alliés du Parti communiste. Ils s'en servirent pour se faire une place dans une Afrique du Sud toujours soumise à la même exploitation capitaliste et au pillage des mêmes grands trusts internationaux. Leurs dirigeants se servirent de leurs liens avec le nouvel appareil d'État pour devenir des bourgeois fortunés. Quant à la bourgeoisie blanche, elle conserva ses positions dans la société sud-africaine avec, pour seule contrainte, de se trouver des « entre guillemets partenaires » noirs pour témoigner de leur « entre guillemets loyauté » envers l'Afrique du Sud multiraciale. Depuis, les quartiers riches des grandes villes sont restés pour l'essentiel ce qu'ils avaient toujours été, des havres réservés aux riches blancs que sont venus rejoindre une poignée de parvenus noirs, métisses ou indiens. Outre leur Range Rover aux vitres teintées de grand luxe, tous ces riches ont en commun les mêmes murs d'enceinte électrifiés autour de leurs luxueuses propriétés, protégés par des caméras et des gardes armés, noirs et mal payés, témoignant ainsi de la même peur face à l'écrasante majorité pauvre de la population. Pendant ce temps, la pauvreté des townships s'est aggravée et les conditions de vie de la majorité noire se sont dégradées d'autant plus vite que le nombre et la voracité des bourgeois parasites a augmenté. De jeunes chômeurs, parfois des enfants, passent leur journée au feu rouge à collecter tout ce que les automobilistes veulent bien leur donner, pour revendre ensuite leur butin au poids pour quelques pièces à des recycleurs. Et dans les décharges municipales, on assiste au même spectacle auquel on peut assister dans les plus grands pays pauvres, les longues files d'hommes, de femmes et d'enfants, gravissant les montagnes d'immondices à la recherche du plus petit reste de matériaux recyclables, voire consommables. Et pourtant, la classe ouvrière noire était en droit d'espérer bien plus de la combativité dont elle avait fait preuve, de son courage et de ses sacrifices pendant ces longues décennies de lutte. Mais si elle fut privée de sa victoire, ce fut faute d'avoir eu à sa tête un parti prêt à défendre ses intérêts politiques, un parti se donnant pour objectif non seulement la fin de l'apartheid, mais aussi celle de l'ordre capitaliste qui l'avait produit. Mais qui sait ? La classe ouvrière sud-africaine continue à faire régulièrement la preuve de sa combativité et de son courage, comme elle l'a fait lors de la grande grève du secteur public de 2010, celle des mineurs en 2012 ou encore en 2012-2013, celle des ouvriers agricoles. On peut espérer que les leçons de ces grandes luttes relativement récentes ne seront pas perdues et que d'autres militants sauront s'en emparer et s'en servir comme d'une arme dans les combats à venir de leur classe. Amanda Hunt.